Là où ça devient franchement dingue, c'est quand on crée une banque centrale, ou fédérale. Cette institution est censée émettre des notes, les billets, représentant la valeur du trésor en possession du gouvernement. Pour simplifier, si le gouvernement a un actif de 100 livres d'or, de lampadaires, ou de bouteilles scotch, il peut théoriquement émettre 100 billets d'une livre, qui serviront aux citoyens dans leurs transactions quotidiennes. Mais la réalité est tout autre. Les banques fédérales n'appartiennent jamais au gouvernement, donc à la population, mais aux banques les plus influentes du pays. Voici comment ça fonctionne, le gouvernement sera actionnaire à 20% de la banque, et déposera donc 20 livres d'or. Quatre banques seront également actionnaires, à part égale avec le gouvernement. Cependant, seul l'État déposera véritablement son or, puisque les banques se prêteront à elles-mêmes le montant de leur mise de fonds, en investissant les 20 livres que le pauvre blaireau de peuple vient de leur donner. Donc, dès le départ, le capital qui devait être de 100 livres n'est en réalité que de 20. Dévaluation. Il y a pire. Cette banque fédérale a maintenant le droit d'imprimer de la monnaie. Elle va décider du nombre de billets à imprimer. Eh bien, ces dénominations représenteront la somme totale de la dette que le gouvernement aura envers la banque centrale. Si. Il fabrique une pièce en papier pour quelques sous, puis la loue au gouvernement pour la somme nominale inscrite sur sa face, soit 1, 2, 10, 1000 livres, etc. Pourquoi, bon sang, paierions-nous ce montant absurde? C'est ainsi. Les peuples de la Terre le permettent. C'est simplement une subtile continuité de la monarchie héréditaire, avec un masque souriant. Bon, combien de billets vont-ils émettre, ces experts de la finance? Le trésor prétend posséder 100 livres, alors qu'il n'y en a que 20, vous vous dites, simple. Ils impriment 100 billets de 1 livre. Eh bien, peu. Non. C'est à eux que revient le choix de la quantité de devises en circulation. Ce qui veut dire qu'une fois les 100 premières notes distribuées, la banque fédérale peut à loisir en imprimer 900 nouvelles. Avec comme résultat que votre pinte de lait qui coûtait 200, vaut maintenant 20 cents. Le lendemain, nos amis de la banque centrale peuvent décider de garder dans la voûte 95% de l'argent qui leur passe entre les mains. Au bout de quelques jours, il n'y a plus que 50 notes de 1 livre en circulation. La même pinte de lait s'achète désormais en 100, parce que chaque note représente le double de la somme symbolique représentée au départ. Vous trouvez ça scandaleux? Pensez-y, ces messieurs peuvent sans embâge profiter de leur contrôle de cette respiration de l'inflation et de la récession pour constamment acheter la pinte de lait à 100 et vous la revendre à 20. Tout le monde a travaillé très fort. Plein d'heures supplémentaires. Vous êtes devenu riche. Il suffit à la banque d'imprimer encore 1000 billets et de les mettre en circulation, c'est-à-dire d'acheter eux-mêmes des valeurs sur le marché, le camion de lait, par exemple, alors qu'ils ne possèdent pas un traître sous d'actifs, pour que les 10 billets qui dorment dans votre poche perdent la moitié de leur valeur. Dans les faits, la banque vient d'aller prendre 5 livres dans votre poche. C'est un hold-up subtil. Le hold-up international de tous les habitants de la Terre par un petit groupe de banquiers et d'industriels. Vous ne me croyez pas, Je sens que j'ai besoin d'aide. En voici, l'inflation aux États-Unis depuis 1913, année de la création de la Federal Reserve Bank par Paul Warburg, J.P. Morgan, Rockefeller et leurs potes, de 1950%. La plupart des Américains ne comprennent pas vraiment l'opération des prêteurs d'argent internationaux. Les comptes du système de la réserve fédérale n'ont jamais fait l'objet d'une vérification. La FED opère sans le moindre contrôle du Congrès et manipule le crédit des États-Unis. Le sénateur Barry Goldwaite, Rep. R. C'est une bonne chose que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que s'ils y arrivaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Henry Ford, industriel. Les banques fédérales ne sont pas des agences gouvernementales mais sont des corporations privées, indépendantes, contrôlées localement. Louis contre le gouvernement des États-Unis, 1239, procès du 9e circuit, 1982. Nous avons, dans ce pays, une des institutions les plus corrompues que le monde ait jamais connues. Je parle de la Federal Reserve Bank. Cette institution maléfique a appauvri le peuple des États-Unis et a pratiquement ruiné le gouvernement. Ce crime a été commis par les charognards de fric qui la contrôlent. Il n'y a pas un seul homme ici, à portée de voix, qui ignore que ce pays est gouverné par des banquiers internationaux. Louis T. McFadden, Congressman 1932, Rep. Pa. Lorsque vous et moi signons un chèque, les fonds suffisants doivent être présents dans votre compte pour couvrir le montant du chèque, mais lorsque la réserve fédérale signe un chèque, il n'y a pas de dépôt bancaire y correspondant. Lorsque la réserve fédérale signe un chèque, elle crée de l'argent. Manuel d'utilisateur des services, Federal Reserve Bank de Boston. De toutes les inventions imaginées pour voler les classes ouvrières de l'humanité, aucune n'a été aussi efficace que celle qui les mystifie grâce à l'argent de papier. Daniel Webster, secrétaire d'État, EU 1841. 14 à 18. Une des idées du Kaiser Wilhelm II, toujours conseillé par Max Warburg, est d'accéder au pétrole mésopotamien en construisant une ligne de chemin de fer reliant Berlin à Bassora, l'Irak d'aujourd'hui. La couronne britannique, dont la flotte a abandonné le charbon en 1904 au profit du pétrole, ne peut laisser le monopole de sa Royal Dutch Shell s'effriter. En 1914, quelques mois avant que le projet ne soit complété, la guerre est déclarée sous un prétexte bidon, l'assassinat du duc Franz Ferdinand. Les banquiers de toutes parts se frottent les mains. Pour eux, c'est Noël. Alors que les bolcheviks ne contrôlent qu'une fraction infime du territoire russe, parcelle qu'ils passent près de perdre à l'été 1918, l'American League to Aid and Cooperate with Russia est organisée à Washington DC pour augmenter le support offert au groupe de Lénine et Trotsky, déjà soutenu par Jacob Schiff. Il s'agit d'un consortium regroupant General Electric, Baltimore et Ohio Railroad, et surtout, la Federal Reserve Bank, bref, un lobby des Warburg. Lors du traité de Versailles en 1919, des réparations sévères sont exigées par les alliés à l'Allemagne et à ses alliés. Parmi celles-ci, mentionnons que Royal Dutch Shell, pétrolière appartenant à la couronne britannique, reçoit les champs pétroliers de tout le Moyen-Orient en cadeau. 75% des liquidités nécessaires aux lourds paiements imposés à l'Allemagne sont prêtés au gouvernement berlinois par des banques US dont la Federal Reserve Bank dirigée par Paul Warburg. C'est donc le peuple américain qui va payer avec ses impôts les réparations allemandes de la première guerre aux grandes entreprises qui ont organisé le conflit d'un bout à l'autre. Cette situation contribue à créer la lourde dette nationale qui assure aux banques leur ascendant sur la politique américaine. Voilà qui jette un éclairage prosaïque sur le miracle de la reprise allemande, et sur la légendaire efficacité du régime nazi, qu'on continue de nous vanter jusqu'à nos jours sous diverses formes. 1920, malgré les cendres encore chaudes, et l'horreur cuisante avec laquelle le monde regarde l'hécatombe qui vient de s'achever, Wall Street commence déjà à faire la promotion d'une politique de la revanche en Europe centrale et à préparer l'avènement d'une nouvelle guerre entre la France, l'Allemagne et la Russie. Création à New York du Council on Foreign Relations, sorte de ministère américain des affaires étrangères, échappant à tout contrôle gouvernemental, appartenant à des banques et des trusts industriels. Sa direction est confiée à Paul Moritz Warburg. Il en reste un membre influent jusqu'à sa mort, en 1932. Il fonde également en 1921 l'International Acceptance Bank of New York, banque de réception de capitaux étrangers, qui fusionne ensuite avec la banque de Manhattan. Il est de surcroît fondateur, actionnaire important, et directeur de IG Farben USA, compagnie sœur de la IG Farben allemande, dirigée par son frérot Max Warburg. IG Farben et Werner ont produit à L2 95% des explosifs utilisés par les forces de l'Axe au cours de la Seconde Guerre mondiale. La Hambourg Americaline a pour banque, donc créancier, la MM Warburg de Hambourg. Dans le cadre des réparations, c'est donc Warburg lui-même qui organise son transfert au trust de Averell Harriman et George Herbert Walker, dont le bras américain de sa banque, détenu par ses frères Félix et Paul Warburg, est partiellement propriétaire. Résumons le trajet du fric. Le blaireau américain paye son impôt, qui se ramasse à la Federal Reserve Bank de Paul Warburg et compagnie. Cet argent passe ensuite en prêt à l'Allemagne, en réalité à la Reichsbank de Max Warburg et compagnie. Le fric transite encore une fois vers la Union Bank de Harriman, dont Félix Warburg est un actionnaire important. Cet argent, ou ce qu'il en reste, est ensuite utilisé pour compléter la transaction cédant une immense flotte de navires, la Hambourg America, de la MM Warburg à la Union Bank, toujours propriété partielle des Warburg. Résultat, l'argent volé à un blaireau, l'américain, a servi à déposséder un autre blaireau, l'allemand, et les gouvernements des deux pays encourent de lourds intérêts, alors qu'une gigantesque flotte de navires a semblé changer de main. Pour compléter la boucle, en 1933, le même Max Warburg devient le directeur du conseil d'administration de la Hambourg Americaline. La montée des crapules James Paul Warburg, fils de Paul Moritz, œuvre au poste de vice-président, puis préside des banques de son papa, les International Acceptance Bank, et Manhattan, de 1921 à 1934, tout en devenant conseiller auprès de divers présidents des États-Unis dont Franklin Delano Roosevelt. En 1922, Max Warburg offre son concours à l'établissement à Berlin d'un réseau d'investissement aussi puissant que discret. Les dirigeants en sont Averell Harriman, fils de E. Harriman, et George Herbert Walker. Dans les années 20, les banquiers de Wall Street cherchent en Europe centrale sur qui miser pour s'assurer d'une guerre le plus tôt possible. Paul Moritz Warburg se rend en Allemagne en 1929, et en 1930, pour y représenter l'International Acceptance Bank, intéressé à financer et organiser le Parti National Socialiste de Adolf Hitler. Il représente également le Guarantee Trust de J.P. Morgan dans le même contexte. Crash. En 1929, les banquiers en contrôle de la Federal Reserve Bank organisent un coup d'état économique en créant de toutes pièces un effondrement de la bourse. Les principales entreprises impliquées se sont discrètement retirées du marché boursier au cours des mois précédents. Ils en profiteront ensuite pour reprendre les affaires les plus profitables, liquider les autres, et mettre la main sur d'immenses terres, plus des deux tiers des fermes indépendantes à l'ouest du Mississippi, que les fermiers états-uniens sont forcés de laisser aller, faute de liquidité. C'est sur ces terrains que sera construite la grande utopie américaine de la planète Suburbia, au cours des 30 années suivantes. Le crash de 1929 n'a rien eu d'accidentel. C'est un événement soigneusement planifié. Les banquiers internationaux ont cherché à engendrer ici une condition désespérée, de façon à devenir nos maîtres à tous. Louis T. McFadden, Chairman of the House Banking and Currency Committee, 1933. Prise de pouvoir. Imbibé de fonds et d'appui provenant de toutes parts, Wall Street, la City de Londres, les Tissins, les Schacht, les Krupp, Adolf Hitler et sa armée de 400 000 mitraillettes par Rockefeller et J.P. Morgan, s'emparent du pouvoir après un coup d'État déguisé, en janvier 1933. À compter de 1933, Max Warburg participe à la direction financière de l'État nazi en siégeant au CA de la Reichsbank, sous Hjalmar Schacht de qui il est très proche. Il est parallèlement un des grands actionnaires et dirigeants de la partie allemande de l'immense conglomérat chimique nazi IG Farben, américano-germanique, tristement célèbre pour la création et la vente du Zyklon B, le poison employé dans les camps d'extermination, mais également fournisseur de l'armée allemande en gaz toxique, ersatz pétrolier et produits divers, dont évidemment, des explosifs. IG Farben a un parti pris très clair dans la guerre qui se prépare, puisque la branche américaine de la firme bloque l'accès de l'armée US à ses brevets comportant des applications militaires, en réservant l'exclusivité au côté nazi. Le 29 mars 1933, Eric, le fils de Max, envoie un télégramme à son cousin, Frédéric Warburg, alors directeur d'une branche du réseau ferroviaire des Harriman. Il y demande à Frédéric d'user de toute son influence pour stopper les activités anti-nazies en Amérique. En fait, les Warburg ont le contrôle politique et financier du American Jewish Committee et du Bene Berit, qui publie en 1933 une déclaration commune déconseillant toute action de protestation ou de boycott envers l'Allemagne nazie et allant jusqu'à proposer d'empêcher la tenue de réunions, de manifestations et de toute forme d'agitation à l'encontre du régime de Adolf Hitler. La même année, Max Warburg négocie un important pacte pour la création d'un trust chargé de l'exportation de tous les produits allemands vers les États-Unis. Ce trust regroupant 150 entreprises est mené par la Harriman International & Company. Dirigé par Olivier Harriman, cousin de Haverhill. Les tractations réunissent Hjalmar Schacht, le ministre nazi de l'économie, Max Warburg, Kurt von Schroeder et l'avocat attitré des principales banques nazies tout au long des années 30, un américain nommé John Foster Dulles. Opposé au New Deal de FDR, James Paul Warburg quitte le gouvernement des États-Unis en 1934. Il réintégrera le gouvernement en 1942 en tant qu'assistant spécial au coordonnateur de l'information, William Joseph Donovan. Il aura alors l'occasion de travailler en compagnie d'un certain Edward Bernay, de qui on reparlera. Seconde Guerre mondiale. En 1938, il devient étrange pour les racistes nazis d'exhiber un banquier juif à la tête de leur complexe économique, militaire et industriel. Max Warburg est chassé d'Allemagne, cesse de siéger sur les conseils d'administration des entreprises nazies, abandonne ses fonctions dans l'appareil d'État du Troisième Reich et part s'installer à New York. Cette année-là, Eric Warburg, le fils de Max, fonde Warburg Pincu à New York. Le réseau construit par les Warburg, les Harriman et leurs acolytes continue d'opérer, jusqu'en 1942 dans certains cas, et jusqu'en 1945 dans d'autres. Le profit engrangé sont astronomiques. Contrairement à Schiff, résolument ému par le sort de ses congénères, et toujours prêt à se porter à leur secours, les Warburg semblent dotés d'une indifférence ahurissante aux souffrances des êtres humains en général, mais des Juifs en particulier. Ont-ils été dupés? Peut-être étaient-ils antisémites eux-mêmes? Ou alors plutôt détachés de leur admirable culture ancestrale, et simplement avides de capitaux, de contrôle, de puissance. Abasourdissant mystère. Eric Warburg s'engage dans l'armée américaine pendant la guerre, avec le grade de lieutenant-colonel. Malgré sa place modeste dans la hiérarchie militaire, et les graves risques d'apparence de conflit d'intérêts, on le laisse déployer son influence pour garder Hambourg, la ville familiale, dans la zone britannique lors de la partition de l'Allemagne. C'est lui qui sera chargé de l'interrogatoire de Hermann Göring en 1945. Cette année-là, le dirigeant par intérim de la banque des Warburg depuis le départ de Max en 1938, Rudolf Brinkmann, redonne le contrôle de la MM Warburg à Eric. Max Warburg s'éteint à New York en 1946. La même année, en Angleterre, le petit-fils de Moïse Warburg, Sigmund George Warburg, fonde la SG Warburg & Company. Eric Monsieur Warburg consacre le reste de sa vie au rapprochement entre l'Allemagne et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Pour ses efforts en ce sens, on lui octroie en 1988 une récompense prestigieuse, le prix Eric Monsieur Warburg. La liste des autres récipiendaires inclut quelques grands hommes, dont le DR. Henry Kissinger, architecte du génocide cambodgien, le général Klaus Naumann, en charge des bombardements de l'OTAN dans les Balkans, et Monsieur George Herbert Walker Bush.